19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans un instant, l'actualité sportive avec Sportrama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde. Ce sera avec Baga Sikoura à ce micro. Je vous l'ai dit, Jean-Roger Billon, un bulletin d'information. La Cour pénale internationale a confirmé les charges contre Bosco Ntaganda, accusé de crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Le renvoyant ainsi en procès, les juges ont confirmé 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'indique un communiqué de la CPI. En Guinée, l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, qui semblait avoir été maîtrisée, se propage dans le pays. Entre le 29 mai et le 1er juin, 21 nouveaux décès ont été enregistrés selon l'OMS. Depuis janvier, la maladie a fait 208 morts et sur 328 cas suspects sur les nouveaux foyers de l'épidémie. Jean-Roger, nous avons joint à Conakry le docteur Mamadi Koulibaly, le directeur du Centre national des infections tropicales.
Il y a une apparition dans la préfecture de Télémélé, dans la préfecture de Bopa et quelques cas isolés à Conakry. Nous sommes là dans le domaine de la suspicion. Je pense que les autorités guinéennes en charge de combattre cette épidémie, avait cru très tôt que le mal était jugulé et certainement avait baissé les bras. Les structures chargées de la surveillance avaient cru que le mal était jugulé et les dispositions de sécurité avaient perdu de leur vigueur. C'est pourquoi la maladie a ressurgi.
Docteur Mamadi Koulibaly, le directeur du Centre national des infections tropicales en Guinée. Le tout nouveau président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reconduit le premier ministre Ibrahim Malab et l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Al-Sissi a prêté serment hier, 11 mois après avoir destitué Mohamed Morsi, l'ancien président islamiste. Par ailleurs, une étudiante de 19 ans a été agressée sexuellement hier par un groupe d'hommes près de la place Tahrir au Caire. 7 suspects ont été arrêtés. La marine italienne annonce avoir porté secours à plus de 5000 migrants ce week-end en Méditerranée. Leurs embarcations de fortune regorgeaient d'hommes, de femmes et d'enfants, tel qu'on peut le voir dans une vidéo publiée aujourd'hui par les autorités. Plus de 40 000 migrants, la plupart venant d'Afrique et du Moyen-Orient, sont arrivés à Lampedusa cette année. Le gouvernement italien a demandé l'appui de l'Union européenne pour faire face à cette situation.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président syrien a décrété une amnistie générale pour tous les crimes commis jusqu'à ce lundi. Camille Gros-Didier.
Une semaine après sa réélection, Bachar al-Assad a proclamé une nouvelle amnistie générale. Une initiative qui, selon le ministre de la Justice, qui est cité par les médias officiels, intervient dans le cadre de la réconciliation après les victoires de l'armée syrienne sur le terrain. Il s'agit, précise l'AFP, de la 5e amnistie générale depuis le début en mars 2011 de la guerre civile. Le président Assad, dont le régime qualifie les insurgés de terroristes, avait décrété des amnisties en 2011, 2012 et 2013, mais un pourcentage infime de détenus avait été relâché, fait valoir l'opposition. L'amnistie de lundi intervient après l'élection présidentielle du 3 juin, organisée par le régime Assad dans les territoires qui sont sous son contrôle, un scrutin qualifié de farce, insulte et imposture par le secrétaire d'État américain John Kerry. Assad sait qu'il y a 50 000 à 100 000 personnes dans ses prisons et que certains d'entre eux sont torturés chaque jour, a déclaré l'ancien émissaire onusien Lakhdar Brahimi au magazine allemand Der Spiegel dans un entretien publié ce week-end.
Merci Camille. Les États-Unis et l'Iran ont entamé 2 jours de négociations directes sur le programme nucléaire iranien. Le secrétaire d'État John William Burns et le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran Abbas Araghchi dirigent les 2 délégations à Genève. Ces échanges interviennent une semaine avant la prochaine série de négociations en Téhéran et le groupe 5+1. Au lendemain d'une rencontre historique entre le pape François, le président israélien Shimon Peres et le président palestinien Mahmoud Abbas, le Vatican met en garde contre toute spéculation sur une éventuelle percée dans le processus de paix au Moyen-Orient. Selon les responsables, l'Église catholique ne souhaite pas s'impliquer dans les détails pouvant déboucher sur de prochains pourparlers. La Voix de l'Amérique, le sport, c'est maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue à Sporama. Ravi de vous retrouver donc pour ce numéro spécial qui sera largement consacré à la Coupe du Monde. Comme tous les lundis, donc dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct au 001-202-619-3140. Avec nous ce soir, nous avons Jean-Louis Ntang. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Voilà, et nous avons en ligne de Libreville notre consultant Jules Valentin Ngwe. Bonsoir Jules.
Bonsoir à tous.
Et nous avons en ligne de Ouagadougou Salif Kabore. Bonsoir Salif.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici à Ouagadougou.
Et nous avons aussi Nicolas Pino à Sao Paulo, Brésil. Bonsoir Nicolas.
Et bonne tarde Bagassi.
Voilà, vous êtes là où le monde entier a donc les... Oui, on me signale que Élisée Mpatine est aussi en ligne. Hein. Nicolas, Élisée Mpatine à Boïcan au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir à Bakassi Koura et à Nicolas Pino qui sera les yeux et les oreilles de la Voix de l'Amérique.
Voilà, et le monde entier a les yeux rivés désormais sur le Brésil où les équipes prenant part à la Coupe du Monde continuent d'arriver. Le coup d'envoi, c'est bien sûr ce jeudi. Les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, sont déjà sur place depuis ce week-end. Les Lions du Cameroun sont arrivés ce lundi, non sans avoir fait du bruit au Cameroun au sujet des primes après de longues tractations. Entre les joueurs et les instances sportives du pays, un accord serait intervenu sur les primes des Lions Indomptables pour le Mondial 2014. On parle d'un montant de 60 millions de francs CFA par joueur. Et donc, pour en savoir plus, j'ai joint à Yaoundé notre confrère Eboa Elam Mikado, journaliste sportif à la Radio Nationale.
Demandaient 50 millions de francs CFA comme prime de participation.
50 millions chacun.
Oui, 50 millions de francs CFA comme prime de participation à la compétition de la Coupe du Monde. Et ils demandaient également les primes de qualification même à cette Coupe du Monde. Et évidemment, ajouté à cela, ils ont exigé qu'on leur donne aussi donc, les primes des top sponsors. Avant même le match de samedi contre la Moldavie, eh bien, les joueurs ont donc fait des actions de grève, refusant de s'entraîner, refusant d'aller jouer. Et l'équipe avait été pratiquement divisée en plusieurs camps. Le camp de ceux qui veulent jouer, le camp de ceux qui ne voulaient pas jouer, le camp de ceux qui suivaient le capitaine Samuel Eto'o, qui en est le principal instigateur. Eh bien, lorsque le premier ministre, chef du gouvernement, est descendu sur l'aire de jeu, n'est-ce pas, au cours de sifflet final, pour une petite cérémonie brève de remise du drapeau camerounais vert ou jaune au capitaine, en vue, n'est-ce pas, de lui souhaiter un bon voyage, une bonne prestation au nom de la nation, eh bien, les joueurs qui étaient déjà rentrés dans les vestiaires se sont terrés là-bas et n'ont plus voulu ressortir pour donc recevoir le drapeau de la nation, le drapeau de la République. C'est ainsi que le premier ministre, chef du gouvernement, devant la situation ainsi créée, s'est vu obligé d'une certaine manière de remettre ce trophée, au sélectionneur national allemand du Cameroun, Volker Fink.
Oui, le public est divisé.
Oui, le public est partagé. Il y en a qui estiment qu'il faut donner à ces joueurs-là cet argent parce que en sont les principaux producteurs, les principaux acteurs. D'autres estiment qu'il faut leur donner, mais quand même qu'ils ont monté les enchères plus qu'il n'en fallait.
Voilà, Eboa Elamé Mikado, journaliste sportif à la Radio Nationale. Donc finalement, tout est rentré en ordre et Nicolas, il semble que les Camerounais sont bien au Brésil.
Eh oui, ils sont arrivés ce matin, Bagassi. Hein. Ils sont arrivés, évidemment, tous leur avis est attendu. Hein. Ils sont arrivés à Rio. Tout s'est très bien passé, selon le communiqué de la FIFA. Et ils ont, en ont profité, les Camerounais, pour rejoindre directement, évidemment, leur camp de base qui se trouve dans l'état Espírito Santo. C'est là qu'ils seront basés, évidemment. Alors, on attend beaucoup de cette équipe camerounaise, on le rappelle, hein, qui débutera son tournoi le 13 juin. Ce sera contre le Mexique dans l'Arena das Nunas, dans le Natal. Ça ne va pas être facile, évidemment, pour les Lions Indomptables. Hein.
Alors, si les Lions Indomptables ont pu quelque peu régler leur problème, qu'en est-il de la grève à Sao Paulo?
Alors écoutez, réunion évidemment de crise une nouvelle fois entre les syndicats et les autorités, c'est en ce moment, depuis 15h, heure locale. Alors Bagassi, la ville était paralysée encore aujourd'hui, environ 300 km de bouchons dans la mégalopole qui compte 20 millions d'habitants. Je peux vous dire, pour en avoir subi les conséquences, que les embouteillages ont été réels dans la ville, et c'est vrai que tout le monde attend certainement une issue, hein, puisqu'on peut imaginer une grève le jour, évidemment, de l'ouverture de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est pesant dans les esprits, et on sent ici, évidemment, à Sao Paulo, que les gens aimeraient plus parler football et moins de cette grève.
Oui, alors on revient ici au plateau avec Jean-Louis. Vous avez suivi toute cette tractation entre la fédération, le gouvernement camerounais et puis l'équipe nationale. Quel effet cela peut avoir sur la performance des joueurs?
Je pense qu'actuellement, il n'y aura pas tellement de répercussions au niveau de la performance parce que le coach Walter Finke lui-même l'a dit. Il a estimé que c'était suffisamment de distractions et qu'il ne voulait pas en avoir ou avoir de surprises pour les matchs à venir. Donc, je pense que la sérénité est revenue au sein de l'équipe. On observe par contre que le match s'est tellement bien déroulé. Les joueurs étaient pleins de confiance. Ils ont joué avec beaucoup d'aisance.
Vous parlez du match amical contre la Moldavie qui était...
Samedi soir, oui. Ouais. Donc les joueurs, belle prestation dans l'ensemble. On a remarqué particulièrement la prestation de Mukwanjo qui s'est vraiment présenté comme le catalyseur de l'offense camerounaise.
Mm-hmm. Alors, donc ce match s'est soldé par un score d'un but à zéro. Ouais. Jules Valentin, comment vous suivez toute cette histoire-là depuis Libreville?
Oui, mais il faut dire que la crise récurrente des primes au Cameroun n'est pas un simple problème d'organisation sportive. Mais on peut parler d'un révélateur culturel qui s'inscrit dans les gènes même de la société camerounaise, où lorsque la Coupe du Monde arrive et il y a l'occasion d'une grande sortie, c'est tout le monde qui s'agite à tous les niveaux pour pouvoir avoir quelque chose au râtelier, et tout au début, les acteurs réels, les joueurs, sont courageusement oubliés. Donc les acteurs sportifs, les joueurs, les ayants droit, ont voulu montrer qu'ils étaient vigilants, tout juste, et les choses sont rentrées dans l'ordre, ils ont voulu avoir des garanties. Je crois que ça ne jouera pas sur leurs prestations, ils connaissent leur pays.
Oui, 50 millions, certains disent qu'ils sont gourmands, hein?
Non, mais il faut dire qu'on n'est plus à l'époque où on se disait, vous voyez, en Afrique, on envoyait les enfants à l'école pour être bien dans la vie, et ce sont les voyous qui jouaient au football, donc qui faisaient la musique. Et alors, les Africains n'étaient pas habitués au fait que le loisir peut donner plus d'argent que le reste. C'est bien ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, les joueurs gagnent de l'argent, mais cet argent est donné par la FIFA d'une manière générale, et la FIFA est une organisation riche, et qu'eux aussi, ils allaient.
Alors, oui, Jean-Louis.
Oui, je voudrais juste ajouter que en termes de transparence, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit ici, les joueurs camerounais ont voulu apporter cette transparence que la FECAFOOT n'a pas toujours présentée aux spectateurs camerounais. Et donc, je pense que cette grève ou cette action a voulu mettre sur scène ou mettre la FECAFOOT au pied des lieux et montrer justement qu'il y a des choses qui se passent derrière, enfin behind the scenes comme on dit, qui ne fait pas particulièrement partie de la vie courante des citoyens camerounais. Donc mettre en avant tout ce qui s'est passé behind the scenes, ça a vraiment aidé à la transparence qu'on espère qu'il va régner maintenant.
Ça va continuer. Ouais. Alors Nicolas, on revient à vous. Est-ce qu'on sent un peu l'ambiance de fête au Brésil?
Bon, écoutez, c'est poussif quand même, Bagassi. C'est vrai que la plupart des Brésiliens à qui j'ai parlé m'ont dit que les Coupes du Monde précédentes, on pouvait avoir des semaines et des semaines à l'avance, des rues décorées, des ballons, des drapeaux. Et là, ça fait seulement peut-être que quelques jours dans le centre de Sao Paulo. C'est quand même assez timide. On sent qu'évidemment, le mouvement social a pesé, évidemment, dans cette ambiance et dans cet engouement. Donc, mais tout le monde va supporter, évidemment, la Seleção. Tout le monde espère qu'elle va gagner son premier match contre la Croatie. Mais c'est vrai que le climat social pèse quand même. Hein.
Oui, et on parlait des Lions. Il y aura ce grand match Lion indomptable du Cameroun contre la Seleção. Et ce sera lors de ce premier tour. On va écouter l'avis de Salif Kabore qui lui est à Ouagadougou. Bonsoir Salif.
Bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, cette querelle au Cameroun hein, où les joueurs ont menacé de ne pas partir au Brésil. Comment vous voyez ça du côté de Ouagadougou?
Oui, du côté de Ouagadougou, je dirais que c'est une tradition côté camerounais, hein, parce que ce n'est pas la première fois. Et moi, le vendredi passé, je suivais donc en direct Samuel Eto'o sur une chaîne de télévision camerounaise où il avait déjà prévenu. Il avait déjà prévenu qu'il y avait beaucoup de problèmes et que si cette difficulté n'était pas réglée, en tout cas, les joueurs étaient déterminés effectivement à revendiquer leurs droits. Donc je crois que ce qui s'est passé, il a beaucoup fustigé la Fédération camerounaise de football. Et il était convaincu que le chef de l'État camerounais avait débloqué de l'argent pour qu'on paye les joueurs. Et je crois que les joueurs, effectivement, qui ont eu vent de tout ça, avec bien évidemment la complicité, vous voyez, du capitaine qui est très respecté dans le groupe. Hein, je crois que ce mouvement de boycott avait quand même pour but de revendiquer cette somme, cette prime de match-là. Parce que généralement, on voit que le Cameroun ou le Togo même qui a à côté, ce sont des équipes très souvent, c'est quand elles arrivent sur le terrain, qu'elles étalent en tout cas leurs difficultés à la face du monde entier. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a fait que respecter sa petite tradition en la matière.
Voilà, merci à Salif Kabore à Ouagadougou. Et Élisée Mpatine à Boïko au Bénin, qu'en est-il de la sérénité au sein des Super Eagles du Nigeria? On se rappelle que l'entraîneur s'était plaint après la Coupe d'Afrique des Nations de n'avoir pas été payé. Est-ce qu'il y a du griffifi en ce moment?
Non, pas tellement. Il faut dire que côté nigérien, on a essayé de calmer les choses puisque là, sur le continent, c'est ce qui se passe à quelques jours d'une grande compétition de cette envergure-là. Eh bien, ce sont les problèmes de plus qui commencent. Les Nigériens, le président de la Fédération nigériane de football, en commun accord avec le ministère des Sports, eh bien, ces deux hommes se sont bataillés. Ils ont fait le nécessaire pour pouvoir mettre dans de bonnes conditions ces joueurs qui ont vite pris le chemin des États-Unis afin de se préparer au mieux pour faire une très bonne participation. Puis on se rappelle, Bagassi, le Nigeria est logé dans un groupe un peu relevé où il y a l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Maintenant, les matchs amicaux qu'a livré cette formation, eh bien, ce n'est pas totalement la finalité puisqu'il y a eu deux résultats nuls et une dernière défaite est concédée face aux États-Unis. Eh bien, Stéphane Clichy aura fort à faire pouvoir mener loin cette sélection des Super Eagles.
Voilà, on parlait tout à l'heure du Nigeria. Vous avez suivi, Jean-Louis, ce match Nigeria-États-Unis. Quelle a été votre impression?
Je pense que l'équipe américaine a fait preuve de beaucoup de techniques. Ils ont amélioré, quand on regarde l'équipe américaine de la dernière Coupe du Monde, il y a beaucoup de changements. Ils ont un bon système de jeu. Le coach allemand...
Une défense bien en place.
Une défense bien en place. On a vu le travail du coach allemand qui se fait ressentir tout de suite. L'équipe est un peu plus jeune, un peu plus soudée. Je pense qu'ils s'entendent bien et c'est ça qui se fait ressentir au niveau du jeu.
Ouais. Et Nicolas, avant de partir, je pense que vous avez aussi suivi ce match.
Je ne vous ai pas entendu, Bagassi.
Je disais qu'avant de partir au Brésil, vous avez pu suivre ce match qui s'est déroulé ici.
Mais de quel match? Je ne vous entends pas, Bagassi.
Ah, oui, on parlait du match États-Unis-Nigeria qui s'est déroulé ce week-end.
Oui, les Super Eagles, champions d'Afrique, évidemment, en titre, qui était un petit peu poussif, hein, qui ont notamment été débordés hein, par l'envie des Américains, évidemment, Alting Todd, auteur d'un doublé. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment finalement inquiétant, ce match? On va le voir, je ne suis pas forcément inquiet hein, pour les Super Eagles du Nigeria. C'est vrai que c'est embêtant, mais je pense que, en tout cas, le groupe qu'ils ont, notamment ce match contre l'Iran, qui va être déterminant, pourrait peut-être bien se révéler plus positif hein, pour les Super Eagles.
Jules Valentin Ngoué, vous avez suivi ce match ou pas?
Si, je l'ai suivi.
Et quelle est votre impression alors? Parce que moi, j'ai eu l'impression que le Moses l'avant-centre, il appuyait un peu trop, il gardait un peu trop la balle envers lui et gâchait un peu certaines opportunités.
Oui, mais il faut dire que d'abord, le Nigeria a bien choisi ses sparring partners. Il joue contre des équipes qui ont le même niveau que les équipes qu'il rencontrera dans sa poule. Et donc, les États-Unis, c'est quand même un adversaire sérieux. Ne l'oublions pas, quart de finaliste, disons, en 2002.
et donc qui a fait trembler l'Allemagne. Donc, et c'est un bon sparring partner. Alors, de là à dire que le Nigeria n'a pas brillé, moi je dirais plutôt que l'équipe du Nigeria, pour objectif surtout d'huiler son collectif, un collectif où des joueurs se connaissent relativement, mais où ils ont besoin plutôt de rythme, de faire face à des situations nouvelles. Et il est donc intéressant de les voir réagir lorsqu'ils sont menés, par exemple. Mais je reviens toujours sur cette réalité qui veut que mieux vaut perdre des matchs amicaux que les matchs de compétition. La meilleure préparation, peut-être, c'est celle qui permet de voir là où il y a les failles.
Oui, et une équipe dont on ne parle pas beaucoup et qui rassure vraiment son public, hein, c'est l'Algérie, Jean-Louis.
Oui, effectivement, l'Algérie, personne n'en parle, mais l'Algérie, c'est quand même 4 victoires en 4 matchs
Amicaux.
Et donc, on est vraiment surpris que personne ne prête plus attention à l'équipe algérienne, surtout que c'est l'une des équipes favoris pour ce championnat. On note aussi que la FIFA a poussé l'équipe algérienne au rang de 22e mondial.
Ouais. Donc, et puis, c'est la première équipe africaine en ce moment.
Voilà, c'est la première équipe africaine en ce moment. Tout le monde avait la Côte d'Ivoire comme favori parce que la Côte d'Ivoire était la première équipe africaine, mais maintenant, elle est passé au rang de 23e, donc juste un rang après l'Algérie.
Alors, Salif, vous avez suivi l'Algérie juste avant sa qualification pour cette Coupe du Monde. Vous êtes surpris par ces résultats et ce classement?
Non, pas du tout, parce que quand même, je dirais que l'Algérie, c'est un pays de football, hein, et c'est une nation qui avait vraiment envie d'aller à cette Coupe du Monde. Donc, les Algériens ont pris tout le temps pour préparer en tout cas ce grand rendez-vous du football mondial. Et je crois que l'Algérie peut faire sensation au Brésil, tout comme le Cameroun, malgré les difficultés que ce pays a connues ces dernières heures avant leur départ. Donc je crois quand même que l'Algérie ou la Côte d'Ivoire ont leur carte à jouer au Brésil.
Alors, merci à Salif à Ouaga. On va se rendre à Boïkon au Bénin. Élisée, vous êtes un peu plus proche du Ghana. Peut-être que vous avez des nouvelles fraîches des Black Stars. Que se passe-t-il avec cette équipe?
Oui, Bagassi Koura, en attendant d'affronter la nuit prochaine la Corée du Sud pour ce qui est de son dernier match de préparation avant de se rendre au Brésil. Il faut dire que les Ghanéens s'entraînent après avoir donné la liste des 23. Eh bien, Kwesi Appiah, on se rappelle, qui a été nommé meilleur sportif de l'année du côté du Ghana, eh bien, veut amener cette équipe ghanéenne. L'objectif, c'est de se qualifier pour les demi-finales, si ce soit une première pour le continent africain. Et pour cela, l'homme a rappelé des joueurs expérimenté, on le sait très bien, Michael Essien ou encore Souley Moutaï, eh bien, l'homme veut se poser ou bien se baser sur ses expériences-là pour pouvoir passer dans un groupe très relevé ou encore il y a le Portugal qui va se sentir chez lui, puisque là, vous savez que le Brésil a été colonisé par le Portugal et encore d'autres nations dans ce groupe. Donc là, les gars sont en train de peaufiner, j'allais dire, leur préparation, histoire de bien s'illustrer lors de cette campagne mondiale.
Alors, Nicolas, vous êtes donc sur place et l'équipe du Brésil s'est entraînée aujourd'hui, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Mise en jambe, évidemment, pour l'équipe brésilienne devant ses fans, sans pression. Un entraînement, évidemment, où on a pu notamment apercevoir Neymar. C'est vrai que la transition ici entre les clubs locaux et la Seleção s'est faite. Aujourd'hui, tout le monde, évidemment, soutient cette Seleção et attend des miracles. Alors, c'est vrai que la dernière sortie, là, contre la Serbie, n'avait pas été des plus convaincantes, forcément. Mais ici, les gens y croient. Il y a évidemment cette ferveur populaire pour la Seleção.
Merci à Nicolas Pino qui est à São Paulo au Brésil. Donc on va continuer toujours en football. Vous êtes sur Sporama, sur la Voix de l'Amérique. En Coupe de la Confédération, le CEU Sport de San Pedro a réussi à sauver un point face à Al Ahly, un but partout. C'était ce dimanche dans le cadre de la 3e journée donc du groupe B en Coupe de la Confédération. Les Égyptiens partagent la tête avec l'Étoile du Sahel. Les deux équipes ont chacune 5 points. Sur ce match, CEU Sport Al Ahly, on écoute Rigo Gervais. Il est le sélectionneur du CEU Sport San Pedro.
Bon, ça a été une rencontre de très bon niveau. Je pense que nous avons été les premiers à nous offrir des occasions de but. Par deux fois, on a manqué de scorer. Quand ils ont eu leur opportunité, je pense qu'ils ont marqué. à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Bon, on est allé à la mi-temps, on est revenu avec de bien meilleures intentions. Et il fallait tout faire pour venir au score et puis voir si on pouvait espérer encore. On a réussi à profiter de, enfin d'une opportunité. Et puis, on a tout fait pour gagner, mais je pense qu'un match nul pour cette rencontre-là, c'est bon à prendre, à défaut de la victoire en tout cas.
Alors, comment vous préparez-vous pour la prochaine rencontre?
Bon, c'est un championnat. Je pense que, comme on l'a fait en Zambie, il faut tout faire pour pouvoir faire un résultat à l'extérieur. Alors, nous, il nous reste deux matchs à l'extérieur et puis un match à domicile. Il faut tout faire pour pouvoir maximiser, pour pouvoir obtenir des points, pour pouvoir essayer ici à l'une des deux places qualificatives.
Votre club, il est basé où exactement? À Abidjan ou à San Pedro?
Bon, nous sommes basés à Abidjan, mais nous jouons nos rencontres à San Pedro en championnat. Et puis en Coupe d'Afrique, nous jouons nos rencontres à Abidjan.
Voilà, c'était donc Gervais Rigaud, l'entraîneur du CW Sport San Pedro. Les autres résultats, à Bamako, l'AS Real a été battu par l'AC Léopard de Dolougie, les Congolais. Donc, la SEC Mimosa est tombée à Abidjan, 3-2 face au Coton Sport du Cameroun. Et l'étoile sportive du Sahel a battu Nkana de Zambie, Nkana FC. Donc, Nicolas, vous avez suivi un peu ces réactions. Résultat mitigé du côté d'Abidjan, le CW Sport qui arrive à avoir un point, mais la SEC qui tombe à Abidjan.
Ah oui, déception évidemment pour les clubs ivoiriens. On attendait Rigaud Gervais du CW Sport qui parlait de ce match. C'est vrai que sur cette coupe, c'est très serré. Et puis moi, je pense aussi évidemment en Ligue des Champions, le derby entre les clubs tunisiens, l'Espérance de Tunis et le CS Sfaxien, ouais. Que malheureusement, je n'ai pas eu le résultat. J'étais parti.
C'est 2-1 pour l'Espérance de Tunis face au CS Sfaxien.
Ah, qui relève la tête, évidemment, l'Espérance de Tunis, qui avait besoin de cette victoire.
Oui, et donc on reste en Ligue des Champions pour signaler que Al Ahly et Sétifienne ont fait jeu égal, un but partout. Le TP Mazembe, c'était quand même la grande victoire du week-end, a battu le Zamalek 1-0 et prend donc la tête de ce groupe. Et Al Hilal du Soudan et l'AS Vita Club ont fait match nul, un but partout. Jules Valentin, comment vous appréciez ces différents résultats?
Oui, mais on remarque tout de suite qu'il y a un certain nivellement de valeur et que pratiquement et rien n'est joué. Rien n'est joué. Nous sommes encore à la phase aller et tout peut basculer au retour.
Ouais. Alors, Élisée Mpatine, quand même une forte présence, une forte domination toujours des équipes du Maghreb.
Ouais, parce que déjà de ce côté, il y a une grande organisation concernant le football des clubs. Quand vous prenez des clubs comme de Tunis qui a du mal à enchaîner, c'est vrai, du Sabre a fait une très grande apparition sur le banc de touche qui a mené l'Espérance à gagner ses 3 premiers points. Quand vous prenez des clubs comme l'entente de Sétif, le Zamalek du Caire qui a laissé une mauvaise image du côté de Tout-Puissant Mazembe pour avoir graissé l'arbitre, c'est-à-dire que c'est des clubs qui ont déjà une avance sur les clubs venus de l'Afrique du Nord, c'est vrai. Maintenant, côté d'Abidjan, du tout ou encore des clubs sud-africains, Mamelodi, Sundowns, Orlando Pirates ou encore les Kaizer Chiefs, il y a désormais un travail qui se fait pour pouvoir se rapprocher un peu de ces clubs qui sont proches des clubs européens.
Alors, Jules, avant de nous séparer, un mot quand même sur cette Coupe du Monde qui va commencer. À quoi faut-il s'attendre très brièvement?
Mais il faut s'attendre, comme d'habitude, depuis quelques années, à une Coupe du Monde très équilibrée où tout se jouera sur des détails au premier tour. Mais maintenant, dès que les équipes sortiront du premier tour, c'est celles qui auront les bancs les plus riches et qui sauront forcer leurs chances, qui iront le plus loin.
Alors, Jean-Louis, vous pensez qu'on aura droit à un grand mondial? Sur le plan sportif?
Sur le plan sportif, je pense que ce sera un grand mondial. Je pense qu'il sera ouvert à tout le monde parce qu'on a beaucoup de blessés à l'échelle internationale.
Les équipes risquent d'être équilibrées.
Beaucoup d'équilibre cette Coupe du Monde parce qu'on a beaucoup de superstars qui sont manquantes à l'événement. Je pense aussi notamment que les équipes comme l'Algérie et le Cameroun et la Côte d'Ivoire, bien sûr, peuvent faire la différence et aller un peu plus loin.
Oui. Alors, Nicolas, vous avez 5 secondes pour nous dire votre dernier mot.
Et ben on attend un grand match de football jeudi à Sao Paulo entre le Brésil et la Croatie.
Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Sporama sur la Voix de l'Amérique. Et ici, c'était Jean-Louis Ntang et Bagassi Koura à Washington. Passez une excellente soirée. Rendez-vous le week-end, le lundi prochain.